à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Bonjour tout le monde et re-bienvenue au troisième épisode de Droit de parole, qui est le podcast et l'émission de radio de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Andréanne et encore une fois cette semaine, je serai votre animatrice pour notre épisode. Avant de rentrer dans l'épisode de cette semaine, je voulais vous rappeler que la semaine dernière, on a reçu deux membres du comité du droit de la santé de l'Université Laval afin de discuter là, de plusieurs sujets entourant le domaine du droit de la santé. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande fortement de retourner et d'aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Cette semaine, on a encore la chance là, de recevoir un comité qui est très intéressant et je pense qu'il va permettre de nous en apprendre beaucoup sur des enjeux de la société. Et c'est l'Association des étudiants noirs en droit qu'on a ici à l'Université Laval. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Philippe, ou Phil pour les intimes, qui est un de mes collègues en troisième année. Donc, premièrement, je veux te souhaiter la bienvenue et te remercier d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici.
Donc, avant de commencer, je te permettrai de te présenter. Donc, peut-être juste nous dire d'où tu viens, pourquoi tu as décidé d'étudier en droit, pourquoi tu as décidé de faire partie de... C'est plus un organisme reconnu là, qu'un comité, mais pourquoi tu as décidé de faire partie là, de cette association-là?
Oui, exactement. Donc, vraiment un comité au sens large, selon le règlement. Oui,
exactement.
Alors, c'est un organisme reconnu. Philippe Hervé Ndjoriaka. Donc, je suis un étudiant d'origine ivoirienne. Donc, mon père vient de la Côte d'Ivoire, d'où mon nom qui semble sortir d'ordinaire. Qu'est-ce qui m'a motivé pour me faire des études en droit? Donc, j'ai un parcours assez atypique. Donc, j'ai un bac, une maîtrise antérieure. J'avais commencé à travailler dans un tribunal administratif de sport. Et puis, c'est ce qui m'a motivé essentiellement à faire un changement de carrière pour me lancer vraiment en droit. Donc, me voici à Québec. Maintenant, un étudiant en troisième année, ça passe super vite.
Trop vite.
Vraiment vite. me voilà. Et puis ensuite, je peux enchaîner dans la raison d'être de notre chapitre. Mais essentiellement, donc quand je suis arrivé à Québec, donc comme tu sais, je viens de Montréal, puis j'ai été surpris de voir... un peu le manque de diversité au sein de la faculté. Puis reste que je remarquais quand même qu'il y avait quelques étudiants et étudiantes noires ici et là, mais je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de solidarité entre nous. Et puis grâce à mon parcours de vie avant d'arriver à Québec, j'avais pris connaissance de l'Association des étudiants noirs en droit au Canada. Je savais qu'ils avaient quelques associations au sein des autres facultés de droit répandues à travers le Canada. Puis je me suis dit, écoute, why not? Pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qui m'empêche de venir créer ce chapitre-là, cette association-là, au sein de notre faculté? Donc, c'est ce que j'ai fait avec l'aide de mes collègues, bien évidemment.
Super. Justement, avant de continuer, tes collègues, si tu veux nous les présenter, puis aussi, est-ce que tu veux parler des différentes expertises qu'ils apportent au sein de ton organisation?
Tout à fait, je vais faire de mon possible, donc je veux vraiment pas oublier personne. Alors, d'abord, on a la VP communication, Paola Mogueya, qui est aussi en troisième année. Donc, c'est ça, donc c'est la VP communication, elle est en charge de tous les beaux canevas que notre équipe publie. Donc, c'est vraiment la mastermind derrière ça. On a aussi Karen Etienne Madet, qui est en charge des affaires externes de notre chapitre. On a aussi Michaina Adam, qui est la vice-présidente aux affaires finances. On a également Karine Cuisera, qui est justement dans la période un peu bizarre où tu es une étudiante qui a fait 3 ans et demi, puis qui commence son barreau au mois de janvier. Donc, elle est très occupée, mais celle aussi qui est comme la firecracker, façon de parler, de notre chapitre. Elle a énormément d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, très bien branchée aussi au sein de Québec. On l'a sollicité même pour utiliser ses contacts pour fournir des prix pour les étudiants qui participent à nos activités. Ensuite, on a Fatoumata Diallo, qui est la VP aux affaires professionnelles. Donc, c'est elle qui coordonne beaucoup avec les cabinets et puis nos partenaires qui viennent participer à titre de panéliste à nos activités. Et puis, je pense que ça couvre pas mal le tout. Cela dit, je veux absolument souligner la présence de Morenike Onkarin, qui est en ce moment inscrite au barreau, mais qui était une des membres fondatrices de notre chapitre l'an dernier. Donc, elle n'est plus avec nous. Elle est plus inscrite à l'Université Laval, mais je tenais quand même à souligner sa présence, sa participation.
Bon, ben super. Merci beaucoup. Donc, avant de continuer, bon, l'Association des étudiants noirs en droit... Oui. Je pense que c'est un titre qui parle de lui-même. On comprend l'organisation, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement là, ce que vous faites?
Tout à fait. Donc, vraiment, comme tu l'as dit, comme le titre l'indique, on est une association qui veille vraiment à promouvoir les intérêts des étudiants noirs en droit. Et puis... d'une part, et puis d'autre part, on cherche vraiment à promouvoir les intérêts de la communauté noire selon ce qu'on peut faire, évidemment. Donc, on comprend qu'on n'est pas là pour sauver le monde, mais du moins, on est là pour vraiment promouvoir les intérêts des étudiants noirs en droit. On veut que les étudiants noirs se sentent à leur place dans les facultés de droit à travers le Canada. Et puis aussi, on essaie de vraiment les intégrer au sein du milieu juridique en les mettant en contact avec d'autres juristes qui œuvrent dans le milieu. Et puis aussi, on essaie de faire... De s'assurer que personne se sente isolé parce que, comme tu le sais, les minorités visibles et surtout la communauté noire est vraiment sous-représentée dans le milieu. Et puis, des fois, ça peut amener des sentiments de manque d'appartenance, surtout. Et puis, ça rend le trajet et le parcours en droit, comme tu le sais, qui est pas vraiment... C'est pas un programme d'études le plus facile. Donc, on essaie de vraiment nous faciliter la vie à travers la création de cette organisation-là, qui est là justement pour essayer de tisser des liens de solidarité entre nous.
Super, vraiment intéressant. Puis, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est relativement nouveau qu'on a l'AEND à l'Université Laval. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez décidé d'amener, c'est un chapitre hein, qu'on dit, c'est ça, à l'Université Laval? D'où est venue cette idée-là de l'amener ici?
Tout à fait. Donc, c'est ça. Alors, c'est sûr que l'AEND à l'Université Laval est nouvelle. Elle a été créée à l'hiver 2022. Cependant, l'AEND au Canada existe depuis les années 90. Alors, c'est une idée qui est partie à partir des étudiants, je pense, de l'Université York, Osgoode Hall, la faculté de droit de l'Université York, qui ont parti cette idée. Ils avaient remarqué qu'il y avait un manque de représentativité. Et puis, donc, justement, pour bâtir les liens entre les autres étudiants qui œuvraient dans les autres facultés de droit. C'est parti vraiment d'une idée de Toronto. Ensuite, ça s'est rendu jusqu'à la côte ouest. Ensuite, c'est revenu se répandre à travers toutes les autres facultés. Donc, je pense que maintenant, il y a environ une bonne vingtaine de chapitres, comme on dit, d'associations étudiantes pour les étudiants noirs en droit à travers les autres facultés. Et puis nous, on est la dernière au Québec. Donc c'est ça. Donc pour moi, comme je t'ai dit, je trouvais qu'il y avait un manque, qu'il y avait un certain vide. Et puis je trouvais que c'était important. Donc encore une fois, je t'avais dit que j'avais remarqué qu'il y avait des organisations qui existaient par exemple à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Sherbrooke. Je me suis dit, pourquoi pas Laval? Donc c'est ça, j'ai vu un manque, j'ai vu un vide, puis je pensais que c'était un bel apport justement à la vie étudiante à la faculté de droit de l'Université Laval. Et puis, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'étudiants noirs en droit. On a beau penser qu'il n'y en a pas à Laval, qu'il y en a moins, puis c'est vrai qu'en termes de diversité culturelle, il y a peut-être moins de personnes noires à Québec qu'à Ottawa, qu'à Montréal, mais reste qu'il y en a, puis je pense qu'ils méritent d'être représentés.
Absolument. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le processus pour avoir créé ça? J'imagine que, comme tout comité, quand on part de zéro, c'est jamais facile, mais j'aimerais ça savoir comment ça a été. Est-ce que tu as eu des appuis, du soutien, ou est-ce qu'au contraire, ça a été un processus qui a été complexe?
Non, tout à fait. Alors, écoute, comme je te dis, c'est parti d'une idée, puis je savais pas trop comment m'y prendre. Alors, heureusement pour moi, l'AEND Canada était très, très disponible pour moi, donc j'aurais envoyé un message, j'aurais dit, écoutez, j'aimerais commencer un chapitre ici à l'Université Laval, qu'est-ce que je dois faire? Donc, eux m'ont dit vraiment, m'ont encouragé de contacter l'association étudiante en droit de l'Université Laval. Donc, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai contacté le président. J'avais laissé savoir à Émile que je voulais... donc qui est plus président maintenant, mais j'avais laissé savoir à Émile que je voulais créer ce chapitre-là, puis il m'a expliqué un peu le processus. Donc il fallait que d'abord je recueille quelque chose comme 50 signatures de la part de d'autres étudiants qui voulaient appuyer essentiellement la création de ce chapitre, puis ensuite il fallait que ça passe par l'Assemblée générale, puis que c'est évidemment il fallait qu'il y ait tout cet enjeu du quorum, mais il fallait justement que ça passe à l'Assemblée générale, et puis heureusement pour nous ça a passé à l'unanimité, donc j'étais très, très bien, très, très content. Et puis, l'autre volet de ta question, c'est si on a rencontré un peu de résistance. Je te dirais qu'en général, j'étais bien content de voir que tout le monde était assez réceptif à ça. Donc, si on se remet un peu dans le contexte, avec tout ce qui s'est passé en 2020, donc il y avait évidemment la pandémie, mais il y a aussi toutes les émeutes en lien avec tout ce qui s'est passé à George Floyd. Donc, je pense que ça a vraiment apporté une sorte de prise de conscience de la part de la société en général, surtout en Amérique du Nord, puis même à travers le monde. Donc, les gens étaient beaucoup plus réceptifs à ce genre d'initiative-là. Donc, la soi-disant résistance que j'ai peut-être rencontrée, c'était plus du style « Ah, mais on a déjà des comités qui existent, qui championnent un peu le droit des enjeux, les droits et les enjeux auxquels font face les minorités visibles. » Et c'est tout à fait vrai. Cependant, moi, ce que j'ai mis de l'avant, c'est que une association comme la nôtre vise vraiment à promouvoir les intérêts des personnes noires. Donc, on a une certaine spécificité qui n'est peut-être pas la même d'une personne qui est, par exemple, asiatique ou arabe ou autre. Donc, d'où l'importance. Et je pense que c'est comme ça vraiment qu'on se distingue des autres comités ou organisations qui existent au sein de notre faculté.
Puis aussi, je pense qu'avec le comité droit et enjeux des minorités visibles, justement, vous pouvez apporter, comme tu dis, une expertise. Puis je veux dire, vous travaillez pas un contre l'autre. Au contraire, je pense que vous travaillez énormément de concert puis que vous faites beaucoup de choses en commun. Là. Donc,
Tout à fait. Et puis là, de ce que je comprends, maintenant, il va y avoir une semaine de la diversité à mm-hmm. l'Université Laval. Donc, je pense que ça va être une première. Puis justement, on est en contact avec le CDEMV. Je connais très bien les présidentes. Même, on a pris part à un événement ensemble l'année dernière où il y a le cabinet montréalais qui est venu nous parler. C'est un plus petit événement assez privé, mais il y a des avocats de ce cabinet-là qui sont venus, qui nous ont parlé un peu, des avocats évidemment qui sont issus de la diversité, puis qui sont venus nous parler un peu de leur expérience. On a pu leur poser des questions que peut-être certains étudiants et étudiantes n'oseraient pas poser dans le contexte d'un événement de réseautage. Puis je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien à tout le monde. Donc tout ça pour dire qu'on connaît très très bien la mission du CDEMV, puis on s'entend très bien avec eux.
Super. Puis là, tu as parlé beaucoup du processus avec l'association étudiante. Est-ce que tu peux me parler avec la faculté? Est-ce que ça l'a bien passé également? Est-ce qu'ils t'ont apporté du soutien aussi? Comment a été ton expérience avec eux?
Oui, tout à fait. Je pense que, évidemment, quand la faculté a été mise au courant de l'existence d'un chapitre, ils ont été très, très réceptifs parce que aussi, je pense, reconnaissent le besoin surtout de donner un sentiment aux étudiants qui viennent peut-être pas de Québec, qui sont issus d'une minorité visible, qui sont noirs, qui des fois viennent à Québec puis sont isolés parce qu'ils ont pas nécessairement de point de repère. Donc je pense Surtout à Annie Robitaille, qui était très, très contente d'entendre parler de notre initiative, très encourageante, toujours prête à porter main, puis à nous aider de quelconque façon. Donc, c'est surtout elle que j'aimerais beaucoup remercier pour tout son support.
Super. Là, on va rentrer, je dirais, peut-être dans le vif du sujet. Bien évidemment, là, quand je te pose des questions, je les pose à toi, mais si tu connais d'autres personnes qui ont eu des expériences qui sont pertinentes que tu veux partager, sans toi, bien libre de le faire. J'aimerais ça savoir jusqu'à présent, ton expérience à la faculté de droit de l'Université Laval, c'est comment? Est-ce qu'il y a eu une certaine discrimination? Est-ce que tu sens que tu t'es fait mettre à l'écart ou au contraire, est-ce que tu penses que ta diversité, elle a comme été célébrée. Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça savoir ton expérience par rapport à ça.
Oui, c'est une belle question. Écoute, je vais dire que venant de Montréal, je savais, évidemment, j'avais regardé les statistiques, puis je savais qu'il y avait peut-être un peu moins de diversité culturelle à Québec. Bon, alors... Ensuite, quand je suis arrivé à Québec, évidemment, je suis arrivé en pleine pandémie, donc ça aussi, c'était un autre enjeu. J'ai de la difficulté peut-être à m'intégrer dans la ville de Québec. Mais une fois que les cours ont repris en présentiel, je t'avoue que ça m'a quand même sauté aux yeux de me retourner puis de voir à quel point il y avait plein de gens dans la classe. On devait peut-être être au moins une bonne centaine d'étudiants, puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui me ressemblaient. Donc moi, c'est sûr que ça m'a sauté aux yeux. Cela dit, écoute, puis je pense qu'on se connaît très bien. Ouais. Je suis une personne qui est assez extravertie, donc ça ne m'a pas nécessairement découragé. Puis aussi, avec mon parcours de vie, j'ai un peu plus d'expérience de vie que les autres, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a nécessairement découragé. Au contraire, j'essaie vraiment de faire ma place le plus possible à la faculté, puis je me suis fait des très bons amis à la faculté, heureusement. Cela dit, ça c'est mon expérience. Je sais que pour certains autres étudiants, eux parfois ont peut-être le sentiment de se sentir justement isolés parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes expériences qu'eux ou elles. Et puis ça, je pense que des fois c'est un peu difficile. Et puis moi qui viens pas nécessairement de Québec, je sais que des fois le mode de vie est un peu différent à Québec qu'il est à Montréal. Alors, des fois, il y a peut-être cet enjeu-là dans le sens que la culture de la ville de Québec est un peu différente que celle de Montréal. Mais pour moi, écoute, mon expérience, je dirais qu'elle a été positive. Si j'ai été victime de discrimination en raison de ma couleur de peau, je te dirais que non, heureusement. Est-ce que tous les autres étudiants noirs vivent cette expérience-là hein, ou une expérience aussi positive? Ça, je ne sais pas. Donc, vraiment, je parle vraiment à titre personnel. Mais je te dirais que ça a été ça mon expérience jusqu'à présent.
Puis je pense que de raconter ça, c'est tout à ton honneur parce que justement, les gens qui ont peut-être une certaine crainte, comme tu dis, qui n'ont pas l'expérience que toi, tu as, qui sont peut-être un peu plus jeunes, je pense que ça peut quand même leur donner espoir puis les encourager d'entendre J'espère. Une histoire comme ça. Donc,
Oui, vraiment. Et puis, je comprends que moi, être extraverti, ça me vient très, très naturellement. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui sont plus introvertis. Il y en a qui ont un peu moins confiance, comme tu le dis. Et puis, je pense que moi, vraiment, si j'aurais un mot un conseil à donner à ces étudiants-là, c'est vraiment essaie de sortir de ta zone de confort. Essaie de te faire des amis. Et puis, au pire... C'est quoi la citation de Wayne Gretzky? If you don't take any shots, you can't score. Donc, pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est sûr que si tu fais pas l'effort, la réponse sera toujours non. Alors, essaie de faire l'effort, essaie de sortir de ta coquille, essaie de te faire des amis, et puis dans le pire des cas, regarde, au moins t'aurais pu essayer. Mais mm-hmm. sinon, si tu laisses la peur ou la crainte que les gens te rejettent, un peu te paralyser, c'est sûr que ça pourrait être un peu plus difficile. Puis je pense que tu pourrais pas aller vraiment chercher le plus de ton expérience au sein de la faculté de droit.
Absolument, mais je pense aussi que maintenant, avec l'Association des étudiants noirs, les gens qui, justement, sont peut-être plus gênés et tout, dès qu'ils rentrent, ils ont des gens à qui s'associer puis vers qui aller. Donc ça, je pense que c'est... Ça va vraiment améliorer leur expérience.
Exactement, exactement. Donc, comme tu l'as dit, nous, on est là vraiment pour essayer de tendre une perche, tu vois, aux gens qui n'ont peut-être pas de repères. Puis, tu vois, comme ça me permet de plugger un peu notre activité d'hier, donc nos pauses café. Mm-hmm. Donc, on est là pour essayer vraiment de faire la promotion de notre association, dire à tout le monde qu'on est là, qu'on existe. Et puis, justement, j'ai pu rencontrer des étudiants en première année qui sont noirs, justement. Puis, eux aussi arrivent à Québec, sont un peu déboussolés, ont peut-être un peu de misère à se faire des amis. Mais je leur dis, écoute, n'hésite pas pas écrire à notre association, on est là, on comprend tes expériences, tes sentiments sont tout à fait valides, voici ce qu'on pourrait peut-être faire pour t'aider. Et puis sinon, si t'as pas de problème aujourd'hui, peut-être que demain t'en auras, on va être là pour toi. On est là pour t'épauler dans tout ça.
Super, si bien dit. j'aimerais savoir, bon, là, tantôt, on a parlé là, de ton expérience avec l'AED puis la faculté pour fonder, amener à l'Université Laval une association des étudiants noirs. En général, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience avec l'AED et la faculté, justement, puis ce que ces associations-là font pour, ou pourraient faire, en tout cas, pour encourager les étudiants noirs en droit?
Mm-hmm. Donc,
soit les étudiants actuels ou en amener des futurs.
Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que... Puis là, évidemment, nous, on est un peu limité dans ce qu'on peut faire parce qu'évidemment, on n'a pas vraiment de contrôle sur le processus d'admission. C'est sûr que moi, je m'étais dit que ça serait bien de voir plus de représentativité au sein de notre faculté. Donc, par exemple, encore une fois, c'est une autre super belle opportunité de plugger la nouvelle bourse Banso Banour qui a été créée cette année par une étudiante à l'école du barreau, Anissa Nour, et une avocate, Ruth Bansoba, qui ont, eux, créé cette bourse pour les étudiants en première année qui s'auto-identifient comme étant noirs. Donc, je pense que ça, c'est une façon d'attirer des étudiants noirs à la faculté de droit, notre faculté de droit surtout. Donc ça, c'est un. Deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Évidemment, nous, notre chapitre, ça serait bien de pouvoir s'afficher au sein de la communauté à Québec, mais aussi si on pourrait avoir une certaine visibilité, peut-être à l'extérieur de Québec aussi, je pense que ça serait bien pour essayer d'attirer plus de gens. Et puis ensuite, qu'est-ce que l'AED pourrait faire? Je pense que vraiment... encourager, vraiment promouvoir la diversité de la faculté, je pense que c'est vraiment super important. Et puis je pense aussi que pour des chapitres comme les nôtres, des fois qui, comme tu sais, c'est pas toujours facile jongler et des études en droit et toutes les activités parascolaires. Et puis je sais que surtout nous et notre chapitre, bon, c'est sûr qu'on le fait un peu par devoir, mais est-ce que c'est pas toujours facile? Mais je pense que si l'AED pourrait... faire comme ça un peu sa mission d'essayer de voir, essayer de prioriser que les comités au sens large qui ont pour mission de promouvoir la diversité au sein de notre faculté, parce qu'on n'est pas vraiment comme les autres comités qui sont ce que je qualifie comme des comités d'intérêt, puis avec égard pour eux. Mais je pense que la diversité, c'est vraiment quelque chose qui est ultra importante, et puis je pense que l'AED devrait vraiment toujours essayer de faire leur possible pour essayer de supporter et d'appuyer ces comités-là dans leurs activités par quelconque moyen. Maintenant, cela dit, j'ai très confiance en un président comme Nima Charegui, qui lui a toujours été un très bon ami. Donc lui aussi, un étudiant en troisième année. On a fait la majorité de notre parcours ensemble, toujours prêt à aider, toujours très disponible. Et puis je pense que les futurs présidents pourraient suivre un peu son exemple dans tout ce qu'il a fait pour aider les chapitres et les associations comme la nôtre pour nous épanouir pleinement au sein de la faculté.
Absolument. Puis comme tu disais, tu sais, c'est quelque chose qui est profondément ancré, mais c'est quelque chose que vous êtes. C'est comme tu dis, il y a des comités d'intérêt qui sont surtout reliés au droit. Bien, aimer le droit, en tout cas, droit des affaires, droit de la santé, droit de la famille, c'est pas comme être noir. Mettons que vous, c'est quelque chose que vous êtes profondément. Là.
Tout à fait.
Fait que je comprends vraiment ce que tu veux dire.
Exactement, exactement. Parce que tu vois que... C'est quelque chose qu'on pourrait jamais manquer. Ouais. Moi, les autres étudiantes qui sont dans mon chapitre, ça ferait toujours partie intégrante de nous. Mm-hmm. C'est pour ça que toutes nos initiatives, on les tient tellement à cœur, parce que on le fait pas juste pour nous, parce que c'est un intérêt qu'on a développé au cours des ans. Non, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et puis c'est quelque chose qui va nous suivre ensuite par la suite, parce que nous, on sait c'est quoi arriver dans une classe puis voir personne qui nous ressemble. On sait c'est quoi regarder par exemple sur le site web d'un cabinet et puis voir que il y a personne qui nous ressemble sur leur profil, puis c'est un peu déstabilisant, voire démoralisant. Donc si une association comme la nôtre, si d'autres organisations semblables comme la nôtre sont là, existent et puis sont tout à fait fonctionnelles, je pense que tout le monde bénéficie de ça.
Absolument. Donc tantôt, on a parlé du comité droits et enjeux des minorités visibles avec qui vous travaillez souvent. Est-ce qu'il existe d'autres associations qui ont des missions un peu semblables à l'AEND, autres que le comité droit et enjeux des minorités visibles.
Oui, de mémoire, écoute, puis j'ai pas envie de massacrer leur nom, c'est le comité justice et enjeux autochtones. Mm-hmm. Eux aussi sont là, puis font un excellent travail. Même, ils ont eu une activité l'autre jour pour commémorer la journée de la réconciliation. Encore une fois, j'ai pas envie de massacrer le nom.
Oui,
de...
c'est réconciliation et vérité.
Je connais le titre en anglais, mais je pense
c'est
que j'ai
déjà... C'est le 30 septembre, en tout cas.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, ils ont organisé une super belle activité sur le campus, juste derrière le pavillon de Coninck. Donc, pour ça, vraiment, je les félicite. Sinon, j'en profite pour parler un peu du comité droit et féministe, qui eux aussi sont là pour représenter les personnes du sexe féminin ou du genre du sexe féminin. Encore une fois, c'est un peu maladroit, je m'en excuse. Mais eux, je sais qu'on va collaborer avec eux pour justement faire venir des panélistes qui vont nous parler, des panélistes au féminin, qui vont venir nous parler un peu de leur parcours, leur pratique et aussi les obstacles qu'ils ont eu à surmonter en raison ou en lien avec la condition féminine. Et puis nous, évidemment, comme tu as sûrement deviné, notre objectif, ça va être d'assurer une certaine représentativité de la communauté noire au sein de ce panel. Donc, ce panel qui aura lieu au mois de mars. Restez à l'affût des publications en temps et lieu.
Super. Puis, je sais qu'il existe également l'Association canadienne des avocats noirs. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus?
Oui, tout à fait. Donc, l'Association canadienne des avocats noirs, donc, c'est une organisation... donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que la version... C'est la version professionnelle de l'AEND. Donc, ce sont des avocats, évidemment, noirs qui, eux, pratiquent dans le milieu. Puis, encore une fois, dans la même optique, veulent essentiellement tisser des liens de solidarité au sein de la communauté juridique noire. Ils font toutes sortes d'activités aussi, non seulement pour appuyer les autres juristes, mais aussi pour aider les étudiants, que ce soit fournir du mentorat, fournir des ressources aussi. Donc, je me souviens, il y a une activité à laquelle j'ai participé cet été. Lacan... Et la Banque nationale ont organisé un événement où ils ont regroupé, ils ont invité tous les chapitres québécois à venir participer à un cocktail à la tour de la Banque nationale à Montréal. Super bel événement. J'ai pu rencontrer d'autres avocats de Montréal, de la rive sud de Montréal. Même chance qui sont venus d'aussi loin que Québec. Même chance de l'Outaouais aussi. Donc une super belle opportunité de faire d'autres liens, faire d'autres connaissances et puis. Donc c'est ça. Donc Lacan, moi c'est sûr que j'ai l'intention de m'impliquer avec eux une fois que j'aurai fini mon parcours universitaire. Mais ouais, une autre super belle organisation.
Super, c'est comme la version 2.0 de votre AEND.
Exactement, exactement.
Avant d'aller à la pause, j'aimerais ça savoir, là, je pense qu'à date, tu l'as très bien fait, mais est-ce que tu as peut-être un petit mot d'encouragement pour les aspirants étudiants noirs qui souhaitent venir étudier en droit, plus précisément à l'Université Laval?
Tout à fait. Donc, écoute, sans nécessairement me mettre sur un certain pédestre, mais je pense que ce que vous pouvez tirer de mon expérience, c'est que si vous voyez qu'il y a un manque ou qu'il y a un vide, laissez pas ça vous décourager, vraiment foncez dans le tas puis bâtissez-le au pire. Parce que si, non seulement ça va vous faire du bien vous, mais vous savez pas ce que ça va pouvoir faire pour les personnes qui vont venir après vous, les autres personnes qui vont suivre votre exemple. Donc moi, le conseil que je donnerais, ça serait vraiment de foncer, de pas se laisser décourager. Et puis surtout, pensez jamais que vous êtes seul. Suffit de vraiment. Des fois, c'est sûr qu'on a besoin de peut-être creuser un peu plus, mais il y a toujours des gens qui sont là, qui veulent t'aider, qui veulent rendre service, puis qui sont prêts à t'épauler, peu importe ce que tu veux faire.
C'est bien dit. Donc, on va aller pour une courte pause et on vous revient par la suite.
On the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Connection. les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et défi de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
The following program is a disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
J'apprends encore, j'apprends encore. Le ciel va finir par dire ça ici. On se bat, on survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho, blanchon, monstre ou black. Hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tire la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
On est de retour à Gros Bon Sens, l'émission où on réfléchit en commun, même si c'est juste moi qui parle. Il y a du monde contre le tramway parce qu'il trouve qu'il y a déjà assez de fils électriques comme c'est là. Ben, vous avez raison, il y en a trop. Puis vous savez quoi? Avec le tramway, il va en avoir moins. Ils vont tout être enterrés sur le trajet, sauf un par direction. Le fil d'alimentation de la bête. C'est comme passer les fils de ta TV dans le mur, mais dans le sol. Pas pire, hein? Pif pouf, une belle ville, propre, propre, propre. Grâce au tramway. Bon, on s'en va à pause. Si je pouvais, j'irais en tramway.
On est maniaque de Chiz depuis 25 ans.
Donc, on est de retour à Droit de parole et on va enchaîner avec une de mes parties qui est toujours ma partie préférée dans les podcasts et c'est les questions des étudiants parce que moi, ça me fait toujours plaisir de voir que nos auditeurs sont, veulent participer dans le fond à nos émissions et sont engagés à nous poser des questions. Donc, on sait. Ben en fait, moi, je le sais, peut-être que les auditeurs le font pas, mais que tu as fait la course au stage l'année dernière.
Tout à fait.
Donc, j'aimerais vraiment ça, parler de ton expérience. Donc, si tu peux nous en parler en général, puis après ça, on a eu des questions en lien avec ça.
Oui, ben écoutez, moi, évidemment, je suis très chanceux parce que la course au stage s'est très bien passée pour moi. J'ai obtenu un stage aussi. Je sais pas si j'ai le droit de mentionner le cabinet. Osler, Hoskin & Harcourt, qui est un cabinet qui se spécialise surtout en droit des affaires. C'est un cabinet... à l'échelle nationale, qui a un bureau évidemment à Montréal. Et puis vraiment, j'ai beaucoup aimé mon expérience de la course au stage, avec pas mal tous les cabinets avec lesquels j'ai qui m'ont passé en entrevue. Vraiment, tout le monde a été très très réceptif à ma candidature. J'ai été agréablement surpris, je le dis en toute humilité. Et puis les gens ont vraiment été très intéressés par moi. Puis j'ai trouvé ça, encore une fois, surprenant mais très agréable. C'est sûr que c'est pas toujours facile être assis devant son ordinateur puis rencontrer toutes sortes de gens la journée longue via un écran Zoom. Puis c'est sûr qu'à la fin, j'étais épuisé. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est une très belle expérience. Puis je souhaiterais que tous les étudiants aient une expérience comme la mienne.
Puis juste pour confirmer, tu as fait la course à Montréal uniquement, c'est bien ça?
Exactement. Parfait. Donc moi, comme je l'ai expliqué, je viens de Montréal et puis j'ai l'intention de mm-hmm. retourner à Montréal. Parfait. Donc j'ai fait une course exclusivement à Montréal.
Parfait. Donc, la première question qu'on a reçue par rapport à ça, il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que toi ou des collègues, vous êtes déjà fait poser des questions discriminatoires durant des entrevues?
Oui, donc, fort heureusement, moi, j'ai pas eu de questions discriminatoires qui m'ont vraiment malaisé à ce point. Cependant, je sais que j'ai eu un échange assez intéressant avec un cabinet qui m'avait dit que, justement, il m'avait abordé très ouvertement le fait qu'il déplorait un peu le fait qu'il y ait si peu de diversité au sein de leur cabinet, puis qui m'avait dit que, écoute, on aimerait tellement ça avoir un panel de 3 avocats, avocates noirs qui pourraient venir te parler. Puis c'est là où je leur ai dit, écoutez, je comprends, puis je pense que je comprends l'intention, mais en même temps, je crois qu'il faut peut-être faire un peu attention aussi, parce que moi, c'est pas juste le fait que vous avez des avocats noirs qui feraient en sorte que je voudrais me joindre à votre cabinet, parce que là, encore une fois, on parle de faut faire attention à cette espèce de tokenization, comme on dit, pardonnez l'anglicisme, mais de juste mettre les personnes noires en avant juste pour dire qu'on en a. Je pense que ça va un peu plus loin que ça, parce que je pense que s'il y a des personnes noires, évidemment, c'est sûr que ça me fait plaisir de leur parler, mais aussi, comment ils se sentent dans ce cabinet-là? Est-ce que ces personnes-là se sentent à l'aise? Est-ce qu'ils ont les mêmes opportunités que les autres avocats d'avancer leur carrière, de participer à des beaux mandats, etc., etc.? Donc, c'est là où j'ai eu une belle discussion avec ce cabinet-là. Je confirme que c'était pas Osler, mais c'était peut-être le seul moment où la question de la race ou quelque chose comme ça a été abordée, mais c'était vraiment une belle discussion. Cela dit, je sais que j'ai parlé à d'autres candidates noires qui ont peut-être pas aussi vécu des aussi belles expériences que moi. Donc, par exemple, je sais qu'une étudiante qui est pas à notre faculté, qui s'était fait dire, parce que je pense qu'elle était immigrante, mais je pense qu'elle a grandi au Québec, à Montréal. Et puis, je pense qu'il y a un avocat ou une avocate qui lui avait dit très ouvertement, mais écoute, parce que l'étudiante avait expliqué comme quoi, des fois, elle était un peu complexée par le fait que, bon, elle était immigrante, et puis elle se sent pas nécessairement représentée, puis ou du moins, elle se sent pas toujours comprise dans le milieu juridique. Et puis, il y a un cabinet qui lui a dit, mais écoute, inquiète toi pas, du moins, tu parles québécois très très bien, t'as pas d'accent. Puis encore une fois, je le rappelle, c'est une étudiante qui a grandi au Québec, alors j'ose croire que même si elle est immigrante, ça veut pas dire qu'elle a nécessairement un accent. Donc ça, c'était un peu un moment un peu malaisant pour elle, de ce que j'ai compris. Et puis sinon, il y a une autre étudiante qui m'a confié comme quoi il y a un cabinet auquel elle avait postulé, le cabinet lui avait dit qu'écoute, nous, selon nos domaines de pratique, on représente beaucoup de on représente surtout les services policiers. Et puis, je pense que ça pourrait peut-être te causer un enjeu parce que généralement, c'est pas vraiment les gens comme toi qui travaillent, tu sais, sur nos dossiers. Donc, j'étais personnellement très, très désolé d'entendre ce commentaire qui, selon moi, n'a pas vraiment sa place. Ou du moins, je pense qu'il aurait pu peut-être être articulé un peu différemment que ça, parce que c'est sûr qu'il y a peut-être un enjeu là pour cette personne-là. Mais de ce que j'ai compris, cette candidate-là s'est carrément fait dire qu'elle n'avait pas vraiment sa place dans ce cabinet-là, ou du moins c'est ce qu'elle a compris. Je pense que c'est ce qu'elle a ressenti. Et puis, comme de fait, elle a fini par laisser faire sa course avec ce cabinet-là. Donc, ça, c'est juste deux expériences. Mm-hmm. C'est trois expériences, comme vous voyez, qui sont un peu différentes. Moi, encore une fois, la mienne a été largement positive, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui veut savoir aussi à quel point vous sentez que les cabinets sont soucieux de votre réalité.
Oui, mais je pense que les cabinets le sont. Puis je pense qu'il y a vraiment une volonté de vouloir comprendre, une volonté d'écouter, mais je pense que tous les cabinets essaient surtout de trouver la formule magique. Puis je pense que c'est pas juste le milieu juridique qui essaie toujours de comprendre ça, parce que je pense même sur d'un point de vue plus global, la société en tant que telle, on essaie toujours de trouver la formule magique pour savoir comment gérer un peu toutes les questions en lien avec la diversité culturelle, etc. Mais je pense que les cabinets font des efforts. Justement, ils sont très ouverts à vouloir que ce soit commanditer des événements pour montrer vraiment qu'ils sont là pour nous appuyer, non seulement financièrement, mais aussi pour nous comprendre. Ils font venir aussi, j'ai vu... qu'il y a de plus en plus de cabinets qui ont qui offrent des formations à leurs associés, à leurs avocats, même aux étudiants, pour amener une certaine prise de conscience par rapport au bien conscient. Donc ça, je pense que c'est très, très positif aussi. Mais reste qu'évidemment, il y a du travail à faire. Mais je pense que vraiment, la chose la plus importante, c'est qu'il y a une volonté de vouloir s'améliorer et de faire mieux.
Super. Il y a quelqu'un qui veut savoir... Tu penses que c'est quoi l'impact à long terme qu'un tel comité, donc l'Association des étudiants noirs en droit, vise pour le milieu juridique?
Oui, donc je pense premièrement, on veut assurer que les personnes noires se sentent surtout représentées dans le milieu. Parce que bon, des fois, c'est difficile, parce que souvent, oui, le droit, tous les avocats connaissent le droit, ça c'est certain, mais souvent c'est un peu ce qui est... C'est un peu l'aspect qui est, des fois c'est les choses non dites que les avocats ou les avocates avec une certaine expérience de vie sont peut-être en mesure de comprendre. Donc par exemple, moi qui ai un père africain ou une autre étudiante noire qui est issue de l'immigration serait peut-être mieux plus en mesure de comprendre les enjeux auxquels font face une famille qui vient d'arriver au Canada puis qui est peut-être un peu dépaysée puis qui là doit essayer de qu'il y a peut-être des enjeux avec que ce soit leur locataire ou sinon que c'est avec l'école secondaire, etc., etc. Écoute, les enjeux sont il y en a plein, puis c'est pas toujours tout le monde qui est en mesure de les comprendre en raison surtout à cause de la culture. Donc, et puis des fois, je pense que quand on pense à la population qu'on doit desservir, on veut avoir du moins le sentiment que les personnes qui nous représentent, qui vont défendre nos droits, nous comprennent, savent d'où on vient. Puis des fois, c'est difficile de l'exprimer. Mais je pense que quand on a une association comme la nôtre qui vise à promouvoir la représentativité des personnes noires, qui vise à s'assurer qu'il y ait plus d'avocats, d'avocates noires, qu'il y ait plus de juristes dans notre milieu, qui nous ressemblent, qui nous comprennent, je pense que vraiment, on vise à retrouver cet équilibre-là, parce que c'est pas normal qu'il y ait moins de, je pense que selon les statistiques du barreau du Québec, qu'il y ait moins de 2% des personnes inscrites à l'ordre qui soient des personnes noires, quand on sait que le pourcentage de la population québécoise est bien au-dessus de ça. Alors, je pense que c'est ce qu'on essaye de vraiment... C'est ces changements-là qu'on essaie d'apporter. En commençant d'abord avec la Faculté de droit de l'Université Laval, mais quand on parle de la mission de l'Association des étudiants noirs en droit du Canada, de faire des changements vraiment à travers le Canada.
Super. Très intéressant. Il y a quelqu'un qui veut savoir, comment penses-tu que la présence de juristes noirs aide à réduire les impacts du racisme environnemental?
Oui, c'est une très, très belle question. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le racisme environnemental, c'est le fait que les groupes qui ont du pouvoir exposent injustement d'autres groupes moins favorisés à la population. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité américaine, il y en a certains qui vont être au courant que, par exemple, la population de Flint au Michigan, je pense que ça fait des années qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et puis, surtout, ce qu'on va retrouver dans cette communauté-là, ce sont des personnes noires. Et il y a plein d'autres exemples. J'ai donné l'exemple de Flint parce que c'est un peu plus médiatisé, mais il y a des exemples ici au Canada aussi. Donc, généralement, surtout en lien avec le manque d'eau potable dans les communautés autochtones, par exemple. Et puis même, je pense qu'il y a certains quartiers à Montréal qui vivent aussi ces enjeux-là. Donc, juste pour revenir à ta question, qu'est-ce que la représentativité dans le milieu juridique de personnes, une augmentation de représentativité dans le milieu juridique pourrait faire? Ben, je pense que surtout nous, en tant que personnes noires, on pourrait se sentir plus interpellés, peut-être par ces enjeux-là auxquels font face les gens qui viennent de nos communautés. Et puis, on serait peut-être plus portés à vouloir porter secours à ces populations-là, vouloir les éduquer sur leurs droits. Parce que des fois, souvent, ces gens-là ont peut-être pas les ressources ou peut-être pas la connaissance même qu'ils ont des droits qui peuvent faire valoir devant les instances particulières. Et puis, je pense que, justement, en faisant la promotion des autres juristes noirs, des autres juristes issus de la diversité qui sont là pour défendre les intérêts de ces communautés qui sont plus défavorisées, je pense que ça pourrait vraiment beaucoup les aider. C'est mon point de vue pour le peu de recherche que j'ai fait sur le racisme environnemental. C'est la façon que je le comprends.
Super. Il y a quelqu'un qui veut savoir quelles sont les valeurs qui sous-tendent l'action de l'AEND?
Je pense que c'est une belle question. Je pense que vraiment, les deux valeurs qui sous-tendent nos actions, je pense que d'abord, c'est l'entraide. Je pense que vraiment, encore une fois, quand j'ai dit que l'idée m'est venue de créer ce chapitre au sein de la faculté de droit, c'est vraiment que pour que les autres étudiants noirs se sentent moins seuls. Donc, encore une fois, c'était pour tisser des liens de solidarité. Donc, on voulait vraiment tous s'entraider l'un entre nous, se tenir les coudes quand on a l'impression qu'on est seul à faire, quand on a l'impression de faire notre parcours seul, justement, les rappeler qu'on n'est pas seul, qu'on est tous là, qu'on est tous là au combat ensemble. Donc, je pense que l'entraide, c'est un premier point. Puis ensuite, deux, évidemment, s'il y a un certain chevauchement là-dedans, je pense que c'est l'inclusion. On veut s'assurer que tout le monde ait le sentiment qu'ils ont leur place, que même si c'est pas toute la faculté qui leur ressemble, qu'ils ont leur place, que la faculté est prête à leur faire une place justement aussi, et puis qu'ils méritent leur place aussi. Je pense que c'est très important de puis je pense que souvent c'est un des problèmes, c'est que les étudiants ont l'impression qu'ils ont pas leur place, puis qu'ils devraient peut-être aller ailleurs, puis c'est pas vrai. La faculté de droit est vraiment là pour tout le monde, et puis c'est pas tout le monde qui a besoin que ça leur soit dit, moi je suis là pour leur dire que vraiment la faculté de droit est là pour tout le monde et que tout le monde devrait se sentir à sa place.
Mm-hmm, absolument. La prochaine question, c'est très intéressant. Je pense que c'est comme une bonne discussion à avoir. Y a quelqu'un qui dit « Comment le comité voit-il la tendance des universités de toujours essayer de « feature » un étudiant de couleur dans leurs promotions, leurs annonces, etc. » Trouve-t-il que c'est un bon pas vers la représentation de personnes noires ou cela relève-t-il pas plus d'une appropriation ou d'un jeton des étudiants noirs qui se voient attribuer l'étiquette de représentant de leur groupe minoritaire?
Oui, écoute, c'est une très, très belle question, puis je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Alors, premièrement, comme tu le sais, moi, j'ai pris part à beaucoup, beaucoup d'annonces.
Ta fameuse trottinette.
Exactement, avec ma fameuse trottinette. Oui, justement, tout le monde la connaît. Tout le monde est jaloux, d'ailleurs.
Ouais.
Non, écoute, moi, je suis une personne, j'ai toujours voulu participer à ce genre de publication-là. Comme tu sais, je suis une personne qui est très, très extravertie. Puis en même temps, qui dit non à des photos professionnelles gratuites, essentiellement, qui me coûtent juste un peu de mon temps. Alors moi, c'est sûr que ça m'a toujours fait plaisir de participer à ces activités-là. Cela dit, c'est sûr qu'il y a un enjeu au niveau de la sorte de tokenization, excusez l'anglicisme encore une fois, parce que évidemment si la faculté ou n'importe quelle autre faculté voudrait mettre de l'avant qu'ils ont une population étudiante qui est très diversifiée, qui représente vraiment la population québécoise, mais ensuite quand on rentre dans les salles de cours et puis ça ressemble aucunement à ce qui nous a été affiché dans les publications, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a un problème. Donc je pense que je pense que c'est beau de voir que les facultés veulent faire des efforts pour promouvoir la diversité dans leur faculté. Je pense que c'est c'est une belle première étape pour essayer d'attirer des gens de toutes sortes de backgrounds à la faculté de droit. Je pense que c'est très important, encore une fois, pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment avec la représentation. pour s'assurer que les justiciables se sentent représentés dans le milieu juridique. Mais je pense encore une fois que c'est une première étape. C'est pas assez de juste s'assurer qu'il y a une personne noire, qu'il y a un roux, qu'il y a une personne asiatique dans les photos, dans les vidéos promotionnelles. Il faut aussi qu'on voit cette représentativité-là dans les facultés. Donc encore une fois, je me permets de faire la promotion de la bourse Manso Banour, tu vois, qui est un autre événement, un autre geste concret pour essayer de s'assurer qu'il y ait plus de représentativité, du moins au sein de la communauté noire à la faculté de droit. Et puis je pense que la faculté devrait continuer à poser ce genre de gestes-là pour attirer le plus de diversité possible. Parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir des photos et des symboles qui représentent la diversité culturelle qu'on a au Québec dans notre faculté, mais il faut aussi qu'on le voit concrètement dans nos salles de classe. Et puis, non seulement dans nos salles de classe, j'ajouterais aussi dans notre corps professoral. Je pense que c'est très important aussi.
Absolument. Puis je pense que c'est surtout important de pas le faire seulement pour le paraître, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de substance en arrière de la volonté là, de la représentation.
Tout à fait, tout à fait d'accord.
Donc, on a fini pour les questions des étudiants. Maintenant, j'aimerais rentrer dans vos activités parce que, comme tous les autres comités et organismes reconnus, vous organisez plein de belles activités pour les étudiants. Donc, j'aimerais premièrement que tu me parles de ce que l'AEND vous avez fait depuis votre création, puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire d'ici la fin de l'année comme projet? C'est quoi vos activités qui sont prévues là, pour nos étudiants?
Oui, pas de problème. Alors, d'accord. Alors, je sais que on a été créé quand même assez vite. Donc, l'idéal, je pense que pour la planification de tout comité au sens large, les activités pendant l'année se font pendant l'été. Donc, comme tu le sais, notre chapitre a été créé à la fin janvier 2022. Et puis, du jour au lendemain, on voulait quand même s'afficher au sein de notre faculté parce qu'on voulait pas juste créer quelque chose puis se contenter de ça. On voulait vraiment essayer de faire notre possible pour s'afficher au sein de notre faculté. Donc, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on a organisé, et puis encore une fois, si on se remet à l'époque, on était en plein COVID, on n'avait pas le droit d'avoir des activités en présentiel. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a créé un Kahoot, et puis on a invité évidemment tous les étudiants de la faculté à participer à notre activité. Puis je pense qu'on a eu quand même une bonne trentaine d'étudiants. J'étais bien content du nombre d'étudiants qui ont réussi à nous joindre. Donc on a fait on a organisé un Kahoot, donc c'est un sorte de jeu en ligne avec des questions, avec des choix de réponses. Et puis la thématique, c'était l'apport des Noirs dans le milieu juridique au Québec, au Canada et dans le monde. Donc on avait toutes sortes de questions en lien avec ça. Donc on a mis on a mis en évidence toutes les contributions, ben pas toutes, mais une certaine portion des contributions qu'ont fait les personnes noires dans le milieu juridique. Et puis je pense que les gens en sortent aussi un peu plus éveillés à l'égard de la présence des personnes noires dans le milieu juridique. Donc ça, c'était un premier événement. Et puis ensuite, un autre événement qu'on a fait via Zoom, on a invité des panélistes, donc des avocates noires, pour souligner le mois des femmes, le mois de mars. Donc, on a invité des personnes des cabinets à Montréal, puis aussi on a invité des anciennes de l'Université Laval. Puis je pense qu'elles étaient très, très contentes de donner un peu de leur temps pour nous parler encore une fois de leur parcours, que ce soit universitaire, professionnel, nous parler un peu de leur pratique, ce qu'elles font dans leur quotidien, puis aussi nous parler un peu des obstacles qu'elles ont réussi à surmonter. Et puis je pense que surtout les femmes qui ont participé au panel, c'est-à-dire les auditrices, les auditeurs et les auditrices surtout du panel, ont beaucoup apprécié vraiment de voir à quel point les avocates étaient en mesure de tout mettre en perspective, puis puis leur partager un peu leur sagesse et leur savoir avec les étudiantes. Donc, c'est un événement qu'on va reproduire encore cette année, mais je vais revenir pour pas perdre le fil. Donc, on a fait ces deux événements-là l'année dernière. Cette année, ce qu'on a fait, parce qu'encore une fois, on est un nouveau chapitre, on veut continuer à s'afficher au sein de notre faculté de droit, on a conçu des pauses café l'AEND. Donc, ce qu'on fait, donc c'est une activité mensuelle qu'on fait avec la dissidence, shout out à la dissidence, qui nous permet d'utiliser leurs locaux. Et puis, on offre des viennoiseries, donc que ce soit des beignes, des biscuits, des brownies, toutes des choses que les étudiants adorent
délicieuses.
Manger.
Délicieuses.
Exactement. Toutes des choses que les étudiants qui travaillent fort aiment venir grignoter pendant leurs cours. Donc, on fait ça généralement le matin. Et puis, encore une fois, on fait ça une fois par mois pour essayer d'attirer le plus de gens et puis pour faire la promotion de notre association, pour expliquer un peu notre mission, puis aussi pour permettre aux gens de jaser aussi. Je pense que c'est une belle façon de faire la promotion de notre chapitre, nos activités. Et puis aussi, c'est une belle façon de recruter des futurs étudiants pour ceux qui vont prendre la relève de notre chapitre, je l'espère, une fois que je serai parti. Donc ça, c'est pour les pauses café. Ensuite, donc on va avoir un automne relativement calme, vraiment. Puis c'est plus au mois de février et au mois de mars que ça va se donner. Donc encore une fois, au mois de février dernier, on avait souligné le mois de l'histoire des Noirs. On a l'intention de refaire une autre activité en début février, juste avant la course au stage. Et puis on va avoir une activité où on va souligner d'abord le ou la première gagnante de la bourse Bansobanour. Puis on a l'intention d'inviter évidemment les fondatrices de la bourse, et puis on espère aussi avoir d'autres invités. Le fun, que ce soit des avocats de la communauté. Et puis, on espère aussi, encore une fois, parler un peu des contributions des avocats, des juristes noirs au Québec. Donc ça va être en février. La date reste à confirmer. Et puis ensuite, au mois de mars, j'avais parlé plutôt de la semaine de la diversité qui allait être organisée par notre faculté de droit, une première. Et puis nous, on va collaborer avec le comité droit et féminisme pour, encore une fois, ramener notre panel du droit au féminin. Et puis donc, on va faire venir des avocats qui vont nous parler encore une fois de leur expérience, leur parcours, etc. Et puis nous, on va assurer une certaine représentativité de la communauté noire. Mais on va vraiment s'assurer qu'il y ait vraiment une panoplie d'avocates de parcours différents qui vont venir parler de leurs expériences. Puis je pense que ça va être un super bel événement que tout le monde va pouvoir apprécier.
Super. Donc, une année bien chargée.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Écoute, avant de finir, je te permettrais peut-être un petit mot de la fin.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si tu avais un dernier message, là, c'est ta chance de passer.
Oui. écoute, encore une fois, je sais que je l'ai mentionné avant qu'on prenne notre pause, mais encore une fois, juste pour essayer de donner du courage aux étudiants noirs qui commencent dans les facultés. Je sais que des fois, c'est difficile. On a le sentiment de se sentir seul là-dedans, qu'on n'a pas l'impression d'avoir des contacts. Mais pour ce que ça vaut, écoutez, vous serez surpris de savoir à quel point vous êtes pas les seuls à éprouver ces sentiments-là. Il y a plein d'avocats, d'avocates qui savent exactement ce à quoi vous passez à travers. Je vous encourage fortement de prendre les pas pour vraiment contacter ces avocats, ces avocates-là. Même les étudiants, les étudiantes qui sont en deuxième, troisième année, qui connaissent votre parcours, qui savent, qui comprennent vraiment ce que vous ressentez. Donc moi, même si je vais vous le dire tout de suite, si un étudiant noir ou une étudiante noire de l'Université Laval qui se sent seul ou qui a besoin d'aide ou qui a besoin de contact ou quoi que ce soit, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter, que je sois toujours à l'Université Laval ou pas, ma porte sera toujours ouverte à vous. Donc c'est ça, donc vraiment courage, baissez jamais les bras, vous êtes capables. Et puis, si vous ne faites pas juste pour vous, faites-le aussi pour les autres qui vont venir après vous. C'est très important. Puis, sous-estimez jamais l'impact que vous et vos gestes peuvent avoir pour le futur.
Wow, c'est si bien dit. Écoute, j'en ai des frissons. ben écoute, pour finir, je veux encore une fois te remercier d'avoir accepté mon invitation de venir aujourd'hui. Je veux te féliciter encore une fois pour ton travail que tu fais avec l'AND. C'est vraiment tout en ton honneur. Puis je pense vraiment que ça a un impact positif sur l'ensemble de ta communauté, mais de la communauté étudiante aussi. Et ben sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Droit de parole. Merci.
Vous écoutez Cheese 94.3 FM, Québec.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille chaque lundi à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 pour entendre les autrices et les auteurs de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Cheese 94.3.
Après-midi tout le monde, il est en ce moment 14h01, vous écoutez Pop Analyse au Cheese 94.3. Zachary Trossier, je suis un de vos co-animateurs pour cet après-midi, je suis également avec mon ami Jessica et on va parler